Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire.
Saint Augustin marche dans les rues de Naples, aux alentours de 383 de notre ère. Naples est alors une ville d'érudition et de vice, avec des lieux d'études, mais aussi des bains très coquinous. En route pour Milan, ce futur père de l'Église est encore maghrébin et officiellement païen, né en l'actuel Annaba, en Algérie. Il a 32 ans et a laissé derrière lui à Carthage sa femme, sa maîtresse et son fils Adéodatus.
C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar.
C'est l'entame du Salambo de Flaubert. Aucun rapport avec le sujet, mais votre culture générale méritait cette incise. En pleine crise de la trentaine, Aurelius Augustinus a tout lâché pour devenir un homme nouveau, et non cet orateur vaniteux, ce magistrat inique que projetait son père Patricius, amoureux de rhétorique. Il aime déjà bien Platon, Cicéron, les stoïciens, qui veulent qu'on fasse du sexe un usage conforme à une fin. Et l'idée de restreindre ses appétits sexuels semble déjà bien à l'ordre du jour.
Je lus certains livres des platoniciens et je reconnus à travers eux qu'il faut lever les yeux de l'âme au-dessus des choses corporelles.
Vers le port, alors qu'il regarde vers les cieux, à la recherche de la confirmation de sa nouvelle ascèse spirituelle, une femme l'interpelle.
Augustin, est-ce toi ?
La lumière des torches est suffisante pour distinguer les traits d'une maîtresse, connue à Carthage puis oubliée. Une ex, quoi, du genre qu'on évite, surtout lorsque l'on se destine à devenir un saint catholique incontournable. Une méretrix, une prostituée donc, venue tenter sa chance à Naples, elle se fait plus précise.
« Mais c'est bien moi, tu ne me reconnais plus ?»
Il baisse les yeux, elle insiste.
« C'est moi, Augustin !»
La légende attribue alors au saint homme une punchline éclair qui sera comme le point d'appui de toute approche chrétienne de la conversion.
Ita est non ergo sum.
Oui, c'est toi, mais ce n'est plus moi. Précurseur avec ses confessions du genre littéraire de l'autobiographie spirituelle, pilier central de la théologie catholique, exemple même de la conversio ad deum, la renaissance spirituelle, chantre de l'amour divin mais aussi d'une approche coupable de la sexualité, saint Augustin est un penseur plein de surprises. Et sa fréquentation de l'univers étrange de la prostitution n'est pas la moindre. Oui, en imitatio Dei, c'est-à-dire comme son Seigneur avec la fameuse Marie-Madeleine, Augustin a connu les prostituées. Il a même été plus loin dans leur connaissance et aura considéré, quelques années plus tard, celle-ci comme un mal nécessaire, comme il l'affirmera dans cette pragmatique citation tirée de son De Ordine.
Écartez les prostituées des affaires humaines et vous aurez partout le chaos à cause des passions.
Pourtant, c'est bien à lui que l'on doit de lier dans la tradition chrétienne le péché originel à la sexualité. Ce saint, né de son aveu très dépendant à la pulsion sexuelle, sera celui qui vouera à la honte éternelle les comportements gourmands et sensuels. Lui à qui des traditions plutôt fiables attribuent une vie bien libertaire, voire une existence de débauché, et peut-être à l'origine de ce sentiment coupable qui accompagne depuis certains moments de votre intimité. On verra plus loin si cette histoire napolitaine tient la route sur les siècles, mais on peut se fier à Augustin lui-même sur sa conduite sexuelle. Il n'en a pas fait mystère.
Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving.
C'était un sacré libertin, un polyamoureux, un glouton donjuanesque, plus fidèle à la luxure qu'à la discipline spirituelle.
Je m'éparpillais et j'allais bouillonnant parmi mes fornications.
Cette confession concerne son adolescence qui s'achève à 17 ans par un concubinage avec la mère de son fils, répudiée 15 ans plus tard, pour lui préférer une héritière bien dotée. Mais voilà, elle est âgée d'à peine 12 ans. En attendant, il a 32 ans, il doit attendre encore 2 ans pour consommer cette union.
« Donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. »
dit-il dans les confessions. Et ses inclinations vers le lit des femmes le poursuivent jour et nuit.
« Esclave de la passion, je me procurais une autre femme. Ce n'était pas, bien sûr, à titre d'épouse, mais comme pour nourrir la maladie de mon âme et la faire perdurer, telle qu'elle, voire accrue, sous le regard vigilant de l'habitude, et cela jusqu'à l'avènement de l'épouse. »
Saint Augustin trouve la continence impossible, et certains disent que, par culpabilité, il s'en sera bien vengé dans sa théologie. Libido est bien un mot de son époque, et Freud en fera son affaire des siècles plus tard. Augustin en est envahi et veut penser à autre chose. L'homme cherche Dieu, son amour et la béatitude. À cela, une prostituée napolitaine est un obstacle. L'idée est qu'il faut maîtriser son désir, que celui-ci entrave l'amour vrai, qu'il faut s'orienter vers un plaisir supérieur, un plaisir sans chair. Le repentir d'Augustin est une révolution des mœurs. Tout cela ne vous semble-t-il pas avoir laissé des traces sur notre vie occidentale, sur les secrets d'alcôve, le comportement des prêtres et tout ce qui en découle ? Soyons clairs, pour saint Augustin, soit vous aimez Dieu, soit vous vous aimez vous-même, et donc vous exploitez sensuellement les autres créatures à votre bénéfice et devenez de cupides clients de la prostitution. Il faut aimer son prochain. Mais, dira-t-il plus tard à une distance raisonnable, l'amour augustinien, c'est celui dans lequel Dieu et moi nous retrouvons à égalité, mais dans la pureté. Mais alors, cette prostituée, n'aurait-on pas pu la gommer discrètement de sa biographie officielle ? Fallait-il qu'une fille des rues, à peine voilée par l'obscurité des rues lépreuses, vint entacher le grand Augustin rédimé ? À dire vrai, beaucoup de versions de la célèbre prostituée de saint Augustin existent. Ce qui est certain, c'est que c'est dans un serment de l'abbé Bourdaloue, que je me retiendrai bien sûr de trouver un peu tarte, que l'on trouve cette histoire de tentatrice des faubourgs. Elle est donc a priori apocryphe, c'est-à-dire mytho. Pourtant, d'autres sources font état d'une dispute familiale. Monique, la mère d'Augustin, rêvait de voir son fils adopter la foi du Christ et endosser la prêtrise, alors que son père, lui, y était opposé et aurait utilisé une vieille méthode digne des thérapies de conversion. Il aurait soudoyé la dite prostituée pour qu'elle tente le fiston. Comme chacun le sait, ce métier n'étant pas le plus récent du monde, puisqu'il est mentionné jusque dans la Bible, ce genre de machination pouvait être monnaie courante dans la haute antiquité. Et il faut reconnaître qu'en la matière, papa fit chou blanc. C'est en tout cas comme ça que l'hagiographie le fustige. L'histoire de la prostituée et du saint qui résiste à la tentation, on la trouve pour saint Benoît, saint Thomas, saint François d'Assise et j'en passe. C'est un classique. De converti à Milan en 386, à moine, puis à prêtre, puis évêque d'Hippone en 395, la carrière d'Augustin sera tout sauf celle d'un micheton non repenti. « Si l'on veut estimer le chemin parcouru, il faut regarder tous les détails du fameux tableau du Carpaccio de 1502, la vision de saint Augustin, conservée à Venise. Le petit chien Spitz y est la seule concession à la frivolité au moment où le saint se tourne vers la fenêtre pour y accueillir une illumination impromptue. S'il existe des tableaux de prostituées, d'autres de tentations de saints comme celle de saint Antoine, aucune peinture n'a gardé mémoire de cette carthaginoise égarée dans les rues de Naples, ni de son auguste, c'est le cas de le dire, client. Elle a pourtant joué un rôle important dans la sexualité occidentale, d'après son plus grand exégète.
Car que l'on tombe dans le gouffre, ou que l'on soit au ciel jugé, on risque bien des deux côtés, on risque bien des deux côtés, ou d'être brûlé par le soufre, ou noyé dans le bénitier, ou d'être brûlé par le soufre, ou noyé dans le bénitier.
On attribue à Michel Foucault, explorateur post-68ard des sexualités, une passion pour saint Augustin, consultable dans Les aveux de la chair, quatrième et dernier volume de l'Histoire de la sexualité. Voici ce qu'il y est dit.
Il s'agit non seulement d'apprendre les règles d'un comportement sexuel conforme à la morale, mais aussi de s'examiner sans cesse afin d'interroger l'être libidinal en soi. Faut-il dire qu'après saint Augustin, c'est avec la tête que nous éprouvons la chose sexuelle ? D'où il ressort que le problème n'est pas celui du rapport aux autres, mais celui du rapport de soi à soi, ou plus précisément, du rapport entre la volonté et l'expression involontaire.
Aux travailleuses du sexe, la morale reconnaissante. Lordy, don't leave me all by myself.
Lordy.
Écoutez-nous pour l'éternité en podcast sur le site de France Culture. Bravo pour ta prise de son, Valentin Bobinet. Quelle belle réalisation, Colin Gruel. Et bravo à Fan Montet et Mehdi Hariri. Que votre semaine soit aussi une histoire truculente.